Vous êtes sur Art District Radio et c'est l'heure de retrouver Luc Seabright dans Jazz Interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous et bienvenue à notre programme Jazz Interview. Je suis Luc Seabright et aujourd'hui j'ai au téléphone avec moi Sophie Allour. Bonjour Sophie, comment ça va ?
Bonjour, très bien, merci.
Sophie, donc tu es, j'ai oublié de le mentionner, tu es saxophoniste de jazz et donc tu as un concert qui arrive dans quelques jours, là, un concert au New Morning. C'est organisé par le Sunset dans le cadre de Sunset Hors les Murs. Et donc, tu vas présenter ton nouvel album, Time for Love. Et oui. si je puis dire, tu es entouré d'une très fine équipe, puisqu'on compte Stéphane Belmondo au bugle, Glenn Ferris au trombone, André Secarelli à la batterie, Alain Jean-Marie au piano, Sylvain Romano à la contrebasse. Il y aura David Elmalek aussi au sax ténor. Et puis, il y a ce quintet aussi avant, le quintet Allegria. Allegria, on compte une flûte, un hautbois, un basson, une clarinette et un cor, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Donc, en fait, il y a presque toute l'équipe de l'album, avec quelques exceptions notables quand même. Rhoda Scott, notamment. Laurent Koch ne sera pas là, ni Sandro Zerafa, si je ne me trompe pas. Mais globalement, ouais, il y a quand même une grosse équipe.
Oui.
Là, c'est super. Ouais.
Ça me paraissait important que pour le concert de sortie, on soit tous là aussi, ouais, pour fêter cet événement. Et puis, y aura pas mal d'inédits par rapport au disque, parce que forcément, d'accord, cette formation, on ne peut pas faire l'impasse sur tel ou tel morceau en sextet ou en septet. Ça s'y prête tellement que voilà, je pense qu'on va faire quand même quelques reprises de Horace Silver ou de Wayne Shorter, pour le plaisir. Et puis il y aura aussi des morceaux inédits juste avec le quintet. Donc le quintet avant et moi.
D'accord.
Voilà, ce qu'on n'a pas sur le disque. Donc j'essaie de continuer un petit peu de raconter cette histoire de ce projet. Voilà, ça évolue un petit peu avec super le live, mais c'est bien.
Donc de nouvelles surprises en perspective, c'est super.
Ouais.
J'en profite puisqu'on parle des dates. De mentionner qu'il y aura donc aussi le 7 avril à Deauville un concert, pareil dans le projet Time for Love, avec un quintet.
En quintet avec Stéphane Belmondo, oui.
En quintet avec Stéphane Belmondo.
Alain Jean-Marie. Voilà.
Alors là, j'ai noté 8 et 9 juin, mais j'ai oublié de noter où.
C'est ça. C'est au Sunset.
C'est au Sunset, et donc avec un sextet cette fois-ci.
Et sinon aussi en duo à Marciac,
ah oui, c'est
normalement
ça.
Donc, le 10 août.
Le 10 août en duo à Marciac.
Donc ça se décline entre le duo et l'orchestre de 12 musiciens.
Ouais. Donc parlons-en un peu justement de ce projet, puisque on a mentionné tous ces artistes dont tu t'es entouré, et pour beaucoup ce sont des amis de longue date en fait. Et est-ce que c'était important pour toi de t'entourer d'amis, de proches pour ce projet-là?
Oui, c'était important. Alors, comment ça s'est fait? Au départ, c'était un disque en trio.
D'accord.
J'avais un ami mécène qui voulait absolument me faire un disque. Et je m'étais dit, je vais faire un disque de balade. J'avais envie de revenir au standard aussi, et puis aux balades, parce que c'est presque le moment que je préfère dans un concert. C'est le moment où on joue une balade. J'ai l'impression d'être moi-même.
Ouais.
Et donc, c'est parti du trio. Et en fait, ensuite, je me suis dit, mais il y a des gens qu'il faut que j'invite absolument sur ce disque. Notamment, je pensais au son des gens, vraiment. Donc, je pensais au son de ballet de André Secarelli. Ouais. Je pensais au son de bulle de Stéphane. Et puis, de fil en aiguille, le projet a pris de l'épaisseur, on va dire. Et le mécène en question était de plus en plus ravi. Donc, on s'est un petit peu fait plaisir. Je ne referai pas ce disque demain. Je pense que c'est une grosse entreprise et une grosse épopée. Et donc, il trouve son aboutissement mardi, là, au New Morning. Mais c'était une belle aventure, humainement aussi, j'ai trouvé.
Et est-ce que parmi ceux qui ont participé à l'album, est-ce qu'il y en a avec qui tu collabores pour la toute première fois, ou est-ce que c'est des secondes ou...
toute première fois, oui, Glenn Ferris.
D'accord, ouais. Ok.
C'est le seul. Hein. Les autres, finalement, oui, Rhoda Scott, je joue avec elle depuis 10 ans dans son groupe. Stéphane Belmondo, c'est vrai que j'ai commencé avec lui, donc j'ai vraiment beaucoup appris à ses côtés. Qui a d'autres, Alain Jean-Marie, c'est pareil, j'ai joué avec lui de loin en loin au fil des années. André Ceccarelli, je m'étais retrouvée aussi sur scène, invitée par Stéphane Belmondo quand il avait une carte blanche. Donc, il n'y avait pas de première fois, sauf avec Glenn Ferry.
Avec Glenn,
voilà. Et j'ai pensé à son son si particulier. Et ça me paraissait important d'avoir... Enfin, je crois que la balade, c'est vraiment un format qui exige un son bien précis. Et,
ouais.
Et c'est pour ça qu'on était très exigeant aussi sur la prise de son et le mix.
Ouais. Mais c'est vrai que tu as choisi de t'entourer de grands artistes, sculpteurs de son, on pourrait dire. C'est vrai que...
Ouais, un petit peu, ouais.
Entre Stéphane Belmondo, Glenn Ferris, Alain Jean-Marie au piano aussi.
Chacun a vraiment un son à lui très caractéristique.
Ouais.
Rhoda, pareil, on la reconnaît à la seconde où elle pose une note. Et je pense que le son dit quelque chose de l'être humain. Et bon, l'album s'appelle quand même Time for Love. J'avais pas envie de... Enfin, j'avais envie de gens, de belles personnes avec moi, quoi. Et je pense que c'est le cas, là. Je réunis quand même des personnalités qui sont belles, quoi. Rhoda, Alain Jean-Marie, et tout ça, c'est des gens qui sont très...
Complètement. Très chouettes. Et donc, tu mentionnes le titre de l'album, Time for Love. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce titre ?
Le titre est venu après, mais je me suis rendu compte a posteriori, puis surtout j'ai fait le lien avec la pochette, parce que la pochette, c'est vrai que qui accompagne ce titre qui pourrait paraître un peu glamour, elle dit beaucoup de ce que j'y ai mis finalement. Donc j'ai réussi à fermer la boucle, je crois, et j'ai découvert en le faisant que finalement j'avais vraiment besoin d'un disque comme ça, besoin d'amour, ou en tout cas besoin de lutter contre un désenchantement intérieur. Peut-être que les gens autour de moi aussi ont vécu avec ce qu'on a tous vécu collectivement ces dernières années.
Ouais.
Et j'arrivais plus à écrire de musique, donc je me suis tournée un petit peu vers ce que je connaissais, donc les standards, et c'était vraiment mes racines, et j'avais besoin de ça, d'un ancrage un peu particulier. Alors peut-être que la suite, sans doute que la suite, ce sera à nouveau des compositions originales. C'est pour ça que d'ailleurs, le disque s'ouvre sur une composition et se ferme sur une composition.
Oui, c'est ce que
j'avais
noté.
Besoin de
ça,
cette parenthèse. Ouais.
Donc, ouais, est-ce que c'est justement, ouais, c'est intéressant que tu ouvres et tu fermes sur des compositions à toi, que tu revisites, bien sûr. Mais donc est-ce que, pourquoi ce choix-là ? Est-ce que c'est une façon un peu de marquer une continuité, de t'ancrer dans un certain héritage, enfin voilà, est-ce qu'il y a des raisons pour derrière ce choix?
J'ai toujours dans mes disques inséré un ou deux standards, enfin plus souvent un, mais là j'ai fait l'inverse en fait.
Ouais.
J'ai fait l'inverse et parce que ça fait vraiment partie de mon héritage. Moi, je me suis jamais vécue comme j'ai jamais vécu le jazz comme quelque chose qui était importé, quoi. Parce que j'ai commencé par écouter cette musique-là à 12 ans. Donc, elle fait partie de moi. J'ai pas commencé, comme beaucoup de copains qui sont jazzman aujourd'hui, plus ou moins en tout cas, à écouter du rock, etc. J'ai vraiment commencé à écouter du jazz immédiatement. Et donc, je crois connaître cette musique-là. En tout cas, elle me touche. Et j'avais un petit peu envie de faire quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps. Parce que... J'ai un peu de mal avec cette notion-là de la mode, etc. Et Time for Love, c'est aussi ça qui me plaisait dans ce titre. C'est que c'est pas dans l'air du temps de parler d'amour. C'est un peu naïf. C'est un peu, et l'air est plutôt à l'ironie. Moi, je voulais m'inscrire un peu en faux par rapport à tout ça. Mais bon, là, j'en parle a posteriori, hein. C'est un petit peu venu après la réflexion. Finalement, les choses se font et on réfléchit après. C'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs.
On va en profiter pour écouter un peu de l'album. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que justement beaucoup des enfin les morceaux ont tous une couleur un peu unique, que il y a tout plein de collaborations vraiment exceptionnelles, que du coup c'est difficile de choisir deux ou trois morceaux parmi l'album.
Oui, je comprends.
Juste avant d'écouter d'ailleurs je voulais te demander si tu as une préférence pour un morceau en particulier, si tu as un coup de cœur sur l'album que tu veux qu'on fasse écouter. J'avais choisi pour le premier The Second Time Around parce que je voulais faire entendre les arrangements avec le quintet.
Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup le I Love You Porgy avec Alain Jean-Marie.
Ouais, commençons par ça. Juste avant, je voulais juste vérifier avec toi parce que tu as mentionné la pochette. C'est donc l'œuvre de Julien de Casabianca, c'est ça?
Exactement, ouais.
D'accord.
C'est un street artiste qui fait des œuvres. En fait, ses œuvres s'appellent Outings. C'est tout un projet qui. Il sillonne le monde avec ça, il prend des œuvres dans les musées, qu'il photographie simplement et qu'il imprime ensuite sur des grands, grands formats et qu'il colle sur les immeubles. Et ouais. C'est très, très beau, c'est très poétique.
Ouais. Est-ce donc que tu là, le connais, Julien? Je sais que c'est un amateur de jazz, donc...
Ouais.
D'accord.
Bien sûr.
Ok, alors nous allons écouter I Love You Porgy de l'album Time for Love de Sophie Alouan. Thank you. Voilà, c'était I Love You Poggy, tiré de l'album Time for Love de Sophie Allour. J'ai Sophie avec moi au téléphone. Donc, c'était un duo avec Alain Jean-Marie. Alain Jean-Marie, avec qui tu as déjà collaboré. Et enfin, qu'est-ce qui dans son son, justement, on a parlé du son des différents musiciens dont tu t'es entouré. Qu'est-ce qui, chez lui, te touche particulièrement?
Alors, c'est pas juste un duo, hein, c'est l'introduction.
Oui,
c'est
pardon,
duo,
c'est l'introduction
après,
qui est en
quartet. Ce qui me touche particulièrement, je crois que c'est un ensemble de choses entre justement le personnage qu'il est et puis la musique, parce que c'est quelqu'un qui est très étonnant. Il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un de très humble. Et en fait, quand il arrive au studio, quand il est arrivé, là, ça a tout de suite mis un climat très particulier. J'avais prévu d'enregistrer un arrangement un petit peu particulier sur I Love You Poggy. Et dès qu'il a commencé à essayer le piano, j'ai tout abandonné pour justement pour le suivre, quoi, pour suivre sa couleur et pour vraiment essayer de me fondre dans ce climat qu'il installe. C'est vraiment... Et donc, on a fait une première version, et donc en 5 minutes, on avait une version qu'on aurait pu mettre sur le disque. Je réponds un petit peu à votre question en parlant de ça, parce que c'est un son tellement particulier, comme dit Lisa de Rhoda Scott, comme dit Lisa Cabero de Rhoda Scott, c'est un petit peu comme si on était plongé dans un disque Blue Note avec ouais. Alain Jean-Marie. Donc on a fait une version, et puis David Elmalek, qui dirigeait la séance, on a fait refaire 5 des versions. À chaque fois, il nous disait quelque chose, de retirer quelque chose, d'ajouter quelque chose. C'était vraiment très, très bien. Et chaque version, on aurait pu la garder. Et la 5e, on n'entendait plus David dans la cabine. Donc, on se demandait ce qui se passait.
D'accord.
Et il est sorti et il pleurait, en fait.
Ah, d'accord.
Il était très ému par cette version. Donc, c'est celle qu'on a gardée.
Ah, c'est touchant.
Mais voilà, que dire d'autre d'Alain là, on va faire un concert en duo à Marciac. Je pense qu'on va prolonger cette collaboration. En fait, après cette séance-là,
ouais.
Il n'enregistre que 2 morceaux du disque. Le mécène est venu me voir. Il m'a dit, mais il faut que tu fasses quelque chose avec lui, un disque de duo. Alors, je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose, quoi.
Tu as mentionné David Elmalek et ses retours, c'est aussi parce que David était chargé de la direction artistique de l'album, c'est ça?
Voilà, ouais, c'était le directeur artistique.
D'accord.
Ouais.
On a écouté un premier morceau de l'album. C'est donc, comme tu as dit, un album de ballades, de thèmes, de standards, de mélodies qui, selon tes mots, t'ont fait aimer le jazz. C'est une sorte de retour aux sources. Donc, tu parlais d'un peu de comment le projet t'est venu. Est-ce que c'est un projet que tu préparais aussi depuis un moment, que tu savais que tu allais devoir faire à un moment, ou est-ce que c'est venu de manière assez spontanée?
Pas vraiment, en fait. C'est vrai qu'il y a tous ces disques qui m'ont précédé d'albums de ballades, notamment l'album de Coltrane, mais je m'étais pas fixé un objectif dans un jour de faire un album de ballades. En revanche, c'est vrai que pour avoir joué beaucoup avec Rhoda Scott, les gens venaient toujours me parler de la ballade que j'avais jouée avec elle. Et je me suis dit, j'avais peut-être quelque chose à faire sur ce plan-là. Et il m'a pas semblé, en tout cas, que c'était forcément pareil au goût du jour, quoi. J'ai l'impression que les gens ont besoin de beaucoup d'énergie. Ils aiment quand c'est fort, souvent quand c'est vite aussi. Et donc, j'avais l'impression d'aller un peu à contre-courant, en tout cas de cette société d'aujourd'hui. Mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien, l'avenir me le dira. Mais en tous les cas, moi j'en avais besoin. Donc, si ça touche les gens, tant mieux. Mais moi, j'avais besoin de ce son-là et de faire une petite pause un petit peu pour dire pour interroger m'interroger moi-même sur mon parcours, mais interroger aussi le monde dans lequel on vit, quoi, et qui va tellement vite et qui est un peu brutal des fois.
Oui, bien sûr. Et donc, je suis curieux parce que donc cette idée d'interrogation. Est-ce qu'on en apprend aussi avec ce genre de défis, c'est peut-être pas le bon mot, mais de projets un peu nouveaux, Est-ce qu'on en apprend sur ça, des facettes de sa propre musicalité, des parties de sa palette d'instrumentiste aussi, dont on n'est pas forcément conscient ou qu'on n'a pas assez exploré? Est-ce que tu as l'impression d'avoir appris quelque chose aussi sur ta façon de jouer et ta façon d'interpréter certains thèmes, certaines mélodies?
Est-ce que j'ai appris? Je ne sais pas trop. Ce que je sais pour avoir fait quelques concerts avec ce projet, c'est que j'ai l'impression que ça me va bien. J'ai l'impression d'être vraiment à l'aise, quoi. Que c'est un terrain finalement où tout m'est familier.
Ouais.
Et donc, je me sens bien. Je me sens bien dans ce projet.
Ouais,
et
c'est
puis,
très positif.
Peut-être
comme
aussi parce que. Oui.
Réalisation.
Mais c'est peut-être aussi parce que ce projet-là, c'est aussi une aventure humaine, hein. Donc on est nombreux, il faut diriger tout le monde, et en fait, je trouve que il trouve qu'il y a une parité exacte sur scène, mais c'était pas du tout voulu. Et c'est peut-être comme ça que c'est le mieux, parce qu'il faut surtout pas la chercher, mais il est un fait qu'on est, six hommes et six femmes sur scène, et enfin, pas tout le temps, mais je trouve que ça crée une fluidité très agréable dans les rapports et humains, et je pense que les gens le ressentent aussi. Donc il y a tout ça, voilà. Donc je ne sais pas trop ce que j'ai appris sur moi, sinon que c'était une bonne idée de faire ce disque.
D'accord. Ces standards, ces mélodies que tu interprètes ici et qui t'ont marqué, ont souvent été immortalisées par des grandes chanteuses. Tu as mentionné Billie Holiday et la Fitzgerald, et tout particulièrement, tu mets en face sur Shirley Horn. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu penses de sa musique et de ce qu'elle a de spécial pour toi?
Alors oui, parce que c'est vrai que ça fait partie de mes chanteuses préférées. Je crois que ce qui me touche le plus chez elle, c'est qu'elle va toujours à l'inverse de la performance. Et j'aime beaucoup ça en art en général. Les gens qui font pas de la performance, quoi. Même au cirque, justement. Parce que le cirque, c'est un truc très particulier. J'ai jamais tellement aimé le cirque. Mais je trouve que les gens qui prennent le cirque à contre-emploi, c'est toujours très intéressant. Et Shirley Horn me paraît faire quelque... En tout cas, il y a cette idée-là de ne jamais être dans la virtuosité. Alors même que c'est virtuose, finalement, hein, de prendre des tempos aussi lents. Mais je trouve que c'est intéressant... on n'est pas dans une surenchère, on n'est pas dans une démonstration de force, quoi. Donc, finalement, ça doit être quelque chose qui me correspond aussi, parce que sinon, ça ne me toucherait pas comme ça. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est un petit peu pour moi la grande prêtresse du silence et de la lenteur, quoi.
Ouais.
Et donc, c'était pas mal de naviguer sous le patronage de cette reine, quoi.
Ouais. Et je me posais la question, puisque tu es saxophoniste, tu mentionnes ces chanteuses qui ont immortalisé ces thèmes-là, mais est-ce qu'il y a des saxophonistes dont les interprétations des ballades te sont particulièrement chères, t'ont particulièrement marqué?
Ah oui, bien sûr, ouais. À Stan Getz, c'est vrai que le duo avec Kenny Barron, j'ai beaucoup écouté ça. Coltrane, bien sûr, ouais. L'album Ballade, qui d'autres, j'adore Joe Anderson aussi, donc il est pas forcément connu tellement pour ses ballades, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il joue une ballade, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que je fais moins référence aux saxophonistes, parce que d'abord, j'ai pas fait cet album en m'inscrivant dans les pas de ces grands monstres sacrés, mais plutôt en me disant que j'allais aborder ça justement à contre-emploi du saxophone, plus comme une chanteuse, quoi.
Ouais.
Et donc en jouant sur le timbre et en jouant sur la mélodie.
La mélodie, oui.
Donc c'est pour ça que les formats sont assez courts et c'est pas de longs solos, etc. C'est plus, justement, tout est vraiment axé sur la mélodie,
ouais.
et la voix qui n'est pas humaine, mais la voix du saxophone, je pense qu'il peut raconter des choses quand même il n'y a pas de mots, quoi.
Écoutons-le justement, ton saxophone, raconter des histoires. On va écouter un autre morceau. Encore une fois, je te propose de suggérer. J'avais pensé à Left Alone, parce que j'aime beaucoup le son de Glenn Ferris, et on t'entend jouer du soprano aussi. Donc, si ça te va, on écoute Left Alone.
Ouais, très bon choix.
Super. Okay. Alors, on écoute ça.
Thank you.
Voilà, c'était donc Left Alone de l'album Time for Love de Sophie Allour. Sophie était avec moi au téléphone. Malheureusement, on n'a plus trop de temps, Sophie, donc je vais te demander juste rapidement de nous parler de projets à venir. Je sais que notamment, tu as commencé cette année à travailler dans le quartet de Leon Parker, avec notamment Frédéric Nardin, que tu connais puisque vous avez joué ensemble sur ton album précédent. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir? J'imagine que tu vas pas mal tourner avec le projet Time for Love, on a mentionné plusieurs dates. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui se préparent?
Alors, il y a toujours Rhoda Scott qui fête ses 80 ans. Donc, à l'occasion de son anniversaire, on a créé un Lady All-Star, donc avec en plus du Lady Quartet et Anne Besson, Géraldine Laurent et Anne Passeo. Donc, ça va, j'espère qu'on va avoir quelques dates. Avec Leon Parker, on a peut-être le projet. Peut-être que je vais les garder secret d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il faut pas d'obligation.
C'est vrai que c'est un petit peu en gestation, on va dire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaye je voudrais sortir une réédition d'un album que j'ai sorti précédemment qui s'appelle Uncaged. C'était un album un peu plus électrique. Et donc j'essaye de récupérer cet album-là parce que j'ai maintenant un label pour pouvoir faire une réédition. Donc peut-être qu'il y aura des concerts à la gare avec ce projet.
Super.
Et en tout cas, je l'espère. Voilà.
D'ailleurs, ce Time for Love est sorti sur ton propre label.
Oui, tout à fait. L'album, le label Music From Source. Ouais. Et puis, il y a Shaker aussi qui va reprendre du service. L'album Shaker, donc avec orgue, batterie, guitare, tout ça. Donc voilà, donc, pas mal de choses sur le feu. On essaie de faire vivre tout ça, tant bien que mal.
Super. Ben, merci beaucoup, Sophie, d'avoir été là. Ça a été un plaisir de parler avec toi. Donc c'était Sophie Allour. On a écouté son album Time for Love. C'est un très bel album. C'est un album plein de douceur, de tendresse, plein de belles surprises aussi. Et donc il y a plusieurs concerts qui arrivent, notamment un concert au New Morning dans le cadre de Sunset hors les murs le 27 mars. Le 7 avril à Deauville, le 8-9 juin au Sunset et le 10 août en duo à Marciac. On va écouter un dernier morceau tout de même avant de s'en aller. J'avais choisi Stars Fell en Alabama, mais on peut peut-être en choisir un autre. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que
alors
ça te
là,
va?
C'est vous, c'est, bon. C'est vous qui choisissez.
D'accord, allons-y. Stars Fell en Alabama, où on entend à nouveau le piano de Alain Jean-Marie. Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous.
Au revoir.
Jazz Interview avec Luc Seabright. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet artdistrict-radio.com. Très belle journée à notre écoute.
Thank you.